C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une rentrée bizarre. Je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à y croire. Ça y est, les enfants retournent à l'école, les parents au travail. Ce serait donc la fin de la bataille. Mais non, les chiffres sont là, quotidiens et inquiétants. Contaminés, hospitalisés, décédés, ce décompte macabre aux courbes angoissantes nous rappelle que le monde peut à nouveau s'arrêter. Avons-nous enfin pris conscience de notre fragilité ? Pas si sûr. En tout cas, il faut agir. Agir pour le vivant, c'est le nom du festival qui s'est déroulé la semaine dernière à Arles, dans le sud de la France. 4 lieux sont invités pour stimuler la pensée, réfléchir à nos manières d'habiter cette terre que nous avons tant abîmée. Pour une fois, l'événement n'a pas été annulé, alors nous en avons profité pour aller rencontrer, micro à la main, quelques personnalités dont les paroles, je l'espère, vont vous stimuler. C'est la maison d'édition Actes Sud qui a organisé cette première édition du festival Agir pour le vivant. Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et directrice des éditions Actes Sud, c'est elle qui a initié ce festival. Je lui ai demandé en quoi cet événement était différent des nombreuses festivités qui fleurissent autour des enjeux écologiques.
Alors l'idée n'est pas forcément de se démarquer, l'idée est de faire et d'agir précisément. On s'est rassemblés autour de cette notion de agir pour le vivant, ce qui est un peu notre profession de foi depuis toujours. Quand on organise des concerts, ça fait 40 ans qu'on organise des concerts, des rencontres, des lectures, c'est agir pour le vivant, un spectacle vivant. D'ailleurs, on dit bien le spectacle vivant. Et quand on publie des auteurs et qu'on diffuse leurs écrits, c'est aussi agir pour le vivant. Et quand, en plus de ça, depuis des années, je crois que ça fait en fait, presque depuis le début d'Actes Sud, on se préoccupe de ces questions-là. Puisque les premiers titres d'Actes Sud, parfois on oublie, c'est l'espace et le temps en Camargue, c'est la campagne inventée, c'est le voyage au pays d'utopie rustique, c'est les écrits de Victor Hugo contre la peine de mort. Donc on est toujours dans cette action-là. Pour nous, ça a toujours été un moteur, cette nécessité de se préoccuper de cette terre qui brûle.
Pendant 7 jours, 4 lieux sont invités, des écrivains, des philosophes, des scientifiques, des économistes, des entrepreneurs, des botanistes, des agronomes, des artistes. C'est l'urgence écologique qui incite, selon vous, à décloisonner les savoirs ?
L'urgence écologique nécessite cette décloison des savoirs. Et pour moi, c'est une conviction depuis toujours. Je suis au départ scientifique. J'ai fait de la chimie, de la physique et de la biologie moléculaire. Je pense que s'il y a une philosophie que je prends pour moi, c'est celle du doute, du questionnement. Le principe d'indétermination d'Heisenberg, pour moi, ça a été une révélation. Et la science évoluant, maintenant, la génétique évolue vers l'épigénétique. On passe d'un déterminisme absolu à une évolution qui peut se faire en fonction de l'environnement, etc. Tout interagit toujours. Donc, j'ai toujours été portée par cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a urgence à agir. Des études le montrent, les indicateurs sont là, la réalité est là. Donc, il y a une urgence à changer profondément de paradigme et de ne plus accepter d'être dans une politique qui ne fonctionne qu'en silo, qu'en expertise, qu'en cloisonnement et au contraire plus que jamais de tout lier. Et pour ça, l'écologie est un lieu de rassemblement pour penser un monde. Mais alors, c'est pas en dehors du social, c'est pas en dehors de toutes les questions socio-économiques qui doivent bien sûr se poser et qui sont essentielles.
Vous êtes présidente d'Actes Sud, qui est donc une maison d'édition qui a été fondée par votre père dans les années 70, mais qui aujourd'hui fait partie des grandes maisons d'édition françaises. Et justement, aujourd'hui, on sent bien à travers tous les témoignages durant le festival, mais même autour de nous, si on est un peu ouvert et observateur, qu'il y a besoin de trouver le récit du 21e siècle ou les récits du 21e siècle, sortir de ceux du 20e siècle. Pour vous, c'est un rôle important, ça, en tant qu'éditeur, c'est un défi.
Oui, c'est très, très important parce que c'est effectivement, et c'était la tribune que Cyril Dion avait portée l'année passée à Cannes et à laquelle je souscris totalement avec beaucoup d'auteurs de la maison. Je crois qu'on le sait, l'histoire, elle s'est toujours faite au gré des mythes. Et c'est le plus puissant vecteur. Un film peut nous porter. On a vu l'effet, par exemple, de Demain, même si c'était un documentaire. L'impact que ça a eu sur la nécessité de territoire, de se reprendre en main, de faire des lieux en transition, etc. Donc, c'est essentiel comme vecteur et c'est une grande conviction. Et puis l'autre chose qui est une conviction aussi, c'est que notre travail, c'est d'être des accompagnateurs, on est des catalyseurs d'une certaine façon. Je suis chimiste au départ, donc j'aime bien ce terme. Et on porte et on accompagne nos auteurs. Et il en résulte des livres. Mais pour autant, c'est pas toujours facile d'aller dans une librairie, d'avoir accès aux livres. Donc des moments de débat comme ça, c'est aussi une manière de diffuser les livres et de permettre d'enrichir le débat. Donc une question est posée à travers ces rencontres, quelqu'un aura envie d'aller plus loin, il ira au livre et le livre lui donnera l'envie d'avoir de nouveaux questionnements et reviendra au débat. Donc je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire, qui est cohérent et on a besoin de le faire à tous les niveaux, partout. Avec la crise sanitaire, on est beaucoup dans la prévention par la peur et par le catastrophisme. Et souvenez-vous de cette parole de Roosevelt qu'on voyait dans le film de Naomi Klein, Stratégie du choc, la chose la plus terrible, c'est la peur. Voilà, il faut avoir peur d'avoir peur.
Pour lutter contre la peur, il y a la lecture, la culture. Les écrivains ont un rôle à jouer. Ils peuvent stimuler nos réflexions sur notre rapport au monde. C'est la conviction de Mohamed Mbougar Sarr, ce trentenaire sénégalais qui a déjà reçu de nombreux prix littéraires, vient de publier son 4e roman, De purs hommes, aux éditions Philippe Ray. Il est venu assister au festival Agir pour le vivant pour nourrir un projet en cours.
Alors, je n'ai jamais écrit sur l'écologie, mais je pense que j'y écrirai un jour sur l'écologie. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est quand même une question qui concerne la condition planétaire. Et en tant que telle, elle concerne aussi le Sénégal et des réalités que j'y observe de très très près et qui me touchent de très près ou touchent ma famille ou des gens que je connais. Du reste, je pense que tous les écrivains seront appelés peut-être un peu plus à avoir une certaine responsabilité, puisqu'il s'agit là vraiment de changer des narrations, d'avoir de nouvelles façons de raconter, de dire de nouvelles choses sur le monde tel qu'il se transforme aujourd'hui. Donc je pense que les écrivains, de tout pays qu'ils soient, auront une réflexion à mener. Donc, d'une certaine façon, je suis autant là pour nourrir mes réflexions sur des choses que j'ai envie d'écrire que pour essayer de dire très modestement ce que la littérature peut faire et peut avoir comme pouvoir, très modestement, mais très réellement tout de même, dans ces grandes questions-là qui sont celles-là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là.
Vous avez participé au festival Agir pour le vivant à une table ronde qui s'appelle « Penser une écologie du monde ». Et durant cette table ronde, vous avez dit que pour vous, le capitalisme était une forme de Big Bang. Alors vous faisiez référence à un astrophysicien qui était dans la salle, mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Alors, ce que je voulais dire, c'est que le capitalisme, dans sa forme actuelle, sa forme la plus violente, est d'une certaine façon la matrice d'où sont sorties énormément de questions problématiques qui nous agitent aujourd'hui. Les questions de la colonisation, de la mémoire, on se rend compte qu'au fond, ce ne sont pas tant des questions culturelles que des questions aussi économiques, vraiment d'exploitation économique. Et c'est vraiment par le profit, le goût du profit qu'est née toute cette prédation-là sur la planète, mais aussi sur les hommes. C'est ce que je voulais dire par cette image-là du Big Bang. C'était un peu par provocation, mais c'est simplement pour dire que la naissance du capitalisme coïncide ou a généré un certain nombre de monstres qui sont encore vivants aujourd'hui et entre les pattes desquelles nous sommes aujourd'hui encore pris.
Vous qui êtes écrivain, les écrivains, vous le disiez, ont un rôle extrêmement important au début de ce 21e siècle parce qu'on voit bien qu'il faut essayer peut-être de façonner d'autres imaginaires, raconter d'autres histoires que celles qui ont dominé le 20e siècle. Et là, en tant qu'écrivain africain, vous pouvez jouer un rôle extrêmement important.
Je ne sais pas si le rôle que je jouerai sera important, mais j'espère en tout cas qu'il contribuera à dire quelque chose de l'époque à laquelle je vis et de la réalité telle que je la perçois à travers ma sensibilité. Je ne veux pas du tout dire, parce que je n'y crois plus personnellement, que les écrivains peuvent changer le monde. Mais je suis quasiment certain qu'ils peuvent donner des récits dont la puissance peut contribuer à pousser des gens dans leur réflexion à changer très légèrement leur attitude, à voir le monde autrement. Finalement, c'est ça que les écrivains font, c'est déplacer les gens par l'imaginaire. Et ça veut dire les faire changer de perspective, leur donner d'autres manières de voir. Et ça, oui, c'est le travail de tout écrivain. C'est de sortir les gens d'eux-mêmes pour qu'ils voient le monde autrement, mais ensuite les ramener en eux-mêmes pour que très profondément la réflexion qu'ils mènent sur eux-mêmes, sur leur condition, la condition humaine et sur la condition planétaire, soit féconde.
Alors comment inciter à penser au respect de l'environnement ?
Eh bien, je pense que je ne sais pas, même pas s'il est la peine aujourd'hui de conseiller aux gens de respecter l'environnement. Je pense que si chacun regarde autour de lui, vraiment immédiatement, il voit ou peut sentir tout de suite qu'il y a un problème. D'année en année, des phénomènes climatiques, de pollution, d'avancée, de montée des eaux, de recul, d'érosion du littoral, montrent que dans la vie quotidienne, chacun est confronté à ça. À partir de ce moment-là, ça devient une question de survie d'abord individuelle et puis celle de ses proches et puis en élargissant celle de toute notre espèce. Donc je pense qu'on devrait avoir déjà dépassé le temps où on doit donner des injonctions. Je pense que tout le monde est de plus en plus conscient qu'il a une responsabilité et dans beaucoup de pays d'ailleurs cette responsabilité s'active déjà, donc pourvu qu'elle continue, parce qu'il est presque déjà trop tard.
Qu'est-ce que vous allez écrire en gros pour relever ce défi ?
Je ne peux pas encore donner les détails parce que je ne les connais pas encore. J'en suis vraiment encore à la période, au temps de la collecte d'informations, de données, de lecture, de documentation. Mais de toutes les manières, je crois que ce que la fiction permet toujours de faire, c'est de mettre chaque lecteur, chaque lectrice dans la position de se demander que ferais-je à la place de ce personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment par des procédés ou des dispositifs d'identification très forts de plonger dans des situations existentielles. Pas simplement d'écrire de façon un peu lointaine les choses, mais plonger chaque lecteur et chaque lectrice dans la réalité des choses en le mettant en face de choix difficiles, mais nécessaires, de choix dramatiques ou même tragiques, mais non moins nécessaires, dont sa survie dépend. Je crois que c'est un peu... Le roman est toujours une hyperbolisation des situations dont l'objectif est toujours de créer une sorte de secousse sur le plan moral. Donc nous verrons si cela s'accomplit ou pas, mais l'essentiel est de le tenter en y mettant le plus de détermination possible et le plus de travail artistique possible.
On se retrouve à la sortie de votre prochain livre alors ?
On peut dire ça, rendez-vous est pris.
Merci, au revoir.
Merci bien.
Et la douleur, j'en redemande. On va le faire, mais pas mal. vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis d'être humeur et gamondi. Que la flemmardise t'empêche d'enlever le pied du frein. Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis d'être humeur et gamondi. Que la flemmardise t'empêche d'enlever le pied du frein. J'aime pas la fatigue quand il faut taffer l'album. Charbonne et je m'évade comme les Dalton. Avec les Matisse, des fois j'en ai des tatons. Des fois j'ai trop la flemme et je remets à demain.
On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. C'est dur de s'organiser, de se focaliser. Rendez-moi les jours que j'ai perdus dans leur totalité. Et quand j'ai pas de quoi payer, toujours moyen de moyenner. Je t'ai dit demain le mois dernier, maintenant je dois marcher calibré. Ma feuille est blanche depuis des heures, parfois l'inspi s'épuise et meurt. Envie de tout remettre à demain, mais la vie est remplie d'épreuves. J'ai donné de la valeur à des choses futiles et j'ai négligé des choses importantes. Pardonnez-moi, dans ma tête, je suis qu'un gosse stupide. Tout remis à demain, j'ai pas quitté l'enfance.
On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi.
Je ne suis pas de ceux qui disent que non. Le mal est un aimant. La force de l'un et l'autre féconde simultanément. J'aurai pas le dernier mot. Éternellement, on veut tous voir le monde, découvrir tous ses éléments. Course après le temps, tous les jours, j'ai vu que beaucoup tombent dans les roues. Moi j'ai d'autres bâtons dans les roues, la raison était une erreur. Je cours après le temps pour des sous, j'en ai vu plein balancer. On va voir le bout comme les océans, quand y'a du cash on s'en sert.
On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi.
Les rappeurs de S-Crew dans C'est pas du vent sur RFI, nous avons promené notre micro dans les conférences du festival Agir pour le vivant organisé par les éditions Actes Sud la semaine dernière à Arles, dans le sud de la France. Parmi la centaine d'intervenants, la philosophe Séverine Kodjo-Granvaux a retenu notre attention. Pas seulement parce qu'elle est l'auteur de « Philosophies africaines », publiée aux éditions Présences africaines, mais parce qu'elle a abordé le thème de l'écologie décoloniale.
En fait, le courant décolonial a été pensé d'abord par des intellectuels latino-américains, puis est repris depuis quelques années maintenant par des penseurs africains pour penser les rapports de domination qui perdurent malgré l'indépendance des pays africains depuis, on va dire majoritairement, les années 60. Et il y a une volonté de décoloniser les savoirs, c'est-à-dire de regarder, de prendre le temps d'analyser les savoirs pour voir en quoi ils sont héritiers soit d'une pensée dominante occidentale et donc pas toujours très approprié et adéquat pour penser les réalités africaines, et voir en quoi sinon les pensées peuvent relever d'apports traditionnels, de savoirs locaux africains. Et l'idée n'est pas de rejeter tout ce qui est occidental, mais c'est de bien voir que les concepts ont une histoire et de savoir s'il est pertinent de les conserver pour penser le monde d'aujourd'hui. Donc l'écologie décoloniale, elle cherche à penser une écologie des mondes et pas nécessairement du monde. Il n'est pas question d'avoir un même rapport écologique au monde partout sur la planète, mais il est question de prendre en compte les réalités géographiques, historique et culturel. Et on n'habite pas le monde de la même manière selon qu'on habite New York, Dakar ou Lagos. L'autre apport de l'écologie décoloniale, c'est de montrer qu'il y a un lien entre la crise climatique écologique que l'on vit aujourd'hui et l'histoire de la colonisation et de la traite négrière.
Alors justement, on va explorer ce lien parce que selon de nombreux penseurs, vous le disiez, sud-américains, mais aussi américains, africains de plus en plus, antillais, je pense à Malcolm Ferdinand qui a publié une écologie décoloniale aux éditions du Seuil en 2019. La dégradation de notre environnement, vous parliez de dérèglement climatique, mais on peut parler aussi de la perte de la biodiversité, serait liée à l'histoire esclavagiste et à l'histoire coloniale. Alors expliquez-nous ça.
Oui, ça paraît deux événements totalement lointains et sans lien. En fait, ce que ces penseurs et ces chercheurs montrent, c'est que vous savez que la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, tout ça est lié à... Les géologues disent qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique qui est l'anthropocène, qui est le changement de l'ère géologique du fait de l'activité humaine. Il y a des chercheurs qui disent que cet anthropocène-là, en fait, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas n'importe quel homme qui est responsable de ça, mais c'est une certaine activité humaine qui est celle liée au système économique capitaliste. Donc certains préfèrent parler de capitalocène. Et d'autres chercheurs comme Malcolm Ferdinand ou Donna Haraway parlent de plantationocène, donc qui vient de plantation. Mais en fait, c'est l'idée de montrer que certes, le capitalisme, la production capitaliste est responsable d'une écologie totalement dégradée, mais que le capitalisme s'est construit sur la traite négrière et que sans la traite négrière, il n'y aurait pas eu le système économique capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc d'abord, la traite négrière est responsable de ce point de vue-là, puisqu'elle est à l'origine du système capitaliste. Les deux se nourrissent. Le système capitaliste se nourrit de la traite négrière, qui elle-même nourrit le système capitaliste. Et l'autre aspect, c'est que cette traite s'impose par une des premières expériences de monoculture intensive, qui est la plantation, qui se fait par des déforestations massives, ce que Malcolm Ferdinand montre très bien dans son ouvrage. Par exemple, en Haïti, on va déforester près de 80% de l'île. Et aujourd'hui, on sait que des glissements de terrain qui ont lieu lorsqu'il y a de fortes pluies sont dus au déboisement qui a eu lieu à la déforestation pour mettre les plantations. Donc, ce modèle d'une agriculture intensive, elle prend aussi son origine dans le modèle de la plantation.
Et ça s'est ensuite développé parce que ça a créé du coup cet imaginaire de l'exploitation intensive des espaces. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui toujours hein, dans l'extraction minière, dans la déforestation massive pour l'agriculture. Enfin, c'est resté une façon d'habiter le monde qui est la méthode occidentale dans les pays les plus pauvres.
Tout à fait, c'est la manière occidentale capitaliste d'habiter le monde. Les plantations à la fin de l'esclavage et de la traite négrière, en fait, elles ne restent plus dans les Amériques, mais en fait, elles ont lieu en Afrique, là où est la main d'œuvre. Et ce système d'exploitation qui appauvrit les sols, qui appauvrit la biodiversité, on le retrouve dans toutes les plantations d'Afrique de l'Ouest, mais on retrouve ce système extractiviste extrêmement lourd dans les mines de coltan, en République démocratique du Congo, etc., avec des conséquences écologique désastreuse pour les populations qui vivent aux abords de ces mines ou de ces champs d'extraction.
Et finalement, avec une acceptabilité de part et d'autre, c'est-à-dire que les populations africaines sont depuis très longtemps habituées à cette attitude occidentale. De l'autre côté, les Occidentaux, vu que la pollution et que la dégradation de l'environnement est loin, ne s'en préoccupent pas. Donc il y a une sorte de norme qui pourtant pourrait être remise en cause parce que ce n'est pas la seule façon d'habiter le monde. Et en plus, aujourd'hui, on se rend bien compte à quel point elle dégrade notre environnement. Je pense à Félouine Sarr qui a écrit un livre, bon, il a écrit Afrotopia, évidemment, le fameux livre dont on a souvent parlé dans cette émission, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle Habiter le monde et cette politique relationnelle chez Mémoire d'Encrier, où là, il explique qu'il y a lui aussi et vous aussi hein, dans vos articles et dans votre livre, tout un nouveau mouvement de pensée sur cette façon d'habiter le monde qu'il faudrait pluraliser quelque part pour arrêter de dégrader l'environnement.
En fait, ça repose sur cette idée de décolonisation des savoirs et des mentalités, parce que ce que ces chercheurs, ces intellectuels remarquent, c'est que la colonisation a imposé une manière d'habiter le monde et qu'elle a imposé ses normes et ses valeurs. Et pour imposer ses normes et ses valeurs, elle a détruit les normes et les valeurs des autres. D'abord, la colonisation, on l'a dit, a détruit des écosystèmes, et ces crimes d'écocide se sont accompagnés de la disparition des autres manières d'habiter le monde et des autres savoirs et des savoir-faire, c'est-à-dire que les populations qui habitaient au Sénégal, au Cameroun ou en Centrafrique savaient comment habiter, savaient comment vivre en fonction de ce que la nature la géologie proposait. Et tout ça a été dévalorisé, méprisé par le colonialisme. Et ce qui est terrible, c'est que ces valeurs ont été intégrées par les populations africaines qui elles-mêmes ont dévalorisé ces savoir-faire et les ont abandonnées. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un regain d'intérêt et on se dit qu'il faut revaloriser toutes ces méthodes-là qui ont fait preuve d'efficacité. Mais aujourd'hui, on les interroge, puisque les savoir-faire traditionnels étaient efficaces dans un environnement qui a changé, qui a évolué. Donc, on regarde comment les améliorer, aussi avec les savoirs technologiques qui existent aujourd'hui. Et surtout, je crois que au fond de ça, il y a l'idée de dire aux populations africaines qu'elles ont les clés elles-mêmes de leur développement et qu'en fait, la solution, elle n'est pas à chercher ailleurs, qu'elles savent, elles savent très bien ce dont elles ont besoin.
Il faut être fier de ses savoirs, et d'ailleurs, c'était l'objet de votre livre « Les philosophies africaines », parce que c'est vrai que, bon, là, on parle d'environnement, d'écologie, mais la philosophie participe beaucoup aussi à réfléchir, évidemment, sur le monde, et souvent, la philosophie occidentale, avec ses racines dans l'Antiquité grecque, etc., a méprisé les philosophies africaines, alors que là aussi, aujourd'hui, alors qu'on est un peu dans un cul-de-sac au niveau de la pensée occidentale face à cette crise écologique, on peut puiser dans les philosophies africaines des sources d'inspiration importantes.
Oui, c'est marrant de voir comment le nom de Gaïa est reçu, donc qui est très grec hein, pour désigner la Terre, mais un vif succès, je trouve, dans une nouvelle écologie aujourd'hui. Et en fait, cette démarche-là de nommer la Terre Gaïa est une démarche animiste au fond. Et cette démarche-là, on la retrouve dans beaucoup de sociétés et de cultures africaines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces sociétés ont, la plupart du temps, je ne vais pas faire de généralisation excessive, mais la plupart du temps, un rapport à la nature complètement différent. D'abord, le mot « nature » n'existe pas en tant que tel dans la majorité des langues africaines. L'homme n'est pas quelque chose d'extérieur à quelque chose qui serait appelé de la nature, mais il fait partie d'un grand tout. Et une de ses fonctions, c'est-à-dire à la fois il fait partie de ce grand tout, mais en même temps il se distingue par une de ses fonctions qui est de veiller à préserver l'équilibre de la terre et du grand tout. Et ce rôle-là, ça veut dire qu'il peut cultiver la terre, bien sûr, il peut se nourrir des produits de la terre, mais toujours de manière raisonnée et raisonnable, toujours en deçà de ce que la terre peut offrir, et puis de manière très symbolique, il est là pour faire le lien et permettre à la terre, à la vie, de se régénérer. Et ça, je crois qu'il y a un mode de pensée, une manière d'habiter le monde qui aujourd'hui nous concerne tous et nous parle en fait.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Fall. suffer and my leaves don't offer poetry to men of song.
Les Beach Boys dans C'est pas du vent sur RFI, A Day in the Life of a Tree, une journée dans la vie d'un arbre. Tiens, comment ça se passe la journée d'un arbre? Avez-vous déjà pris le temps de l'observer? Car pour permettre à la vie, au vivant, de se régénérer, il faut lui laisser de l'espace, du temps et lui prêter attention. C'est ce qu'a défendu l'océanographe François Sarano au festival Agir pour le vivant. François Sarano plonge dans les profondeurs depuis plus de 50 ans à la rencontre de la biodiversité de l'océan qui l'émerveille toujours autant.
Même aujourd'hui, il y a une véritable jouissance à voler dans le ciel des poissons et à tout d'un coup être œil dans œil, face à face avec eux, c'est formidable, ça va vous changer pour toujours, comme ça m'a changé moi. Depuis 50 ans, oui, j'ai vu le peuple des poissons, des requins disparaître petit à petit, des mers dans lesquelles on plongeait et qui étaient foisonnantes, qui sont aujourd'hui désertées. Et c'est le constat qu'on fait, les scientifiques, que tout le monde fait, et les chiffres s'accumulent aujourd'hui, et on nous dit c'est pire chaque année. Mais ce que j'ai vu aussi, plus réjouissant, plus merveilleux, c'est que dans les endroits où nous avons souhaité protéger, arrêter d'agresser, la vie est revenue. Elle est revenue en abondance, elle est revenue en diversité spécifique. Dans les vraies aires marines protégées, celles où on ne prélève pas, alors la vie revient gourmande et nous pouvons en profiter. Ça vaut donc la peine de se battre puisqu'on gagne à tous les coups. C'est un jeu où on gagne à tous les coups. Autre chose, quand j'étais sur la Calypso avec le commandant Cousteau, avec Albert Falco, dans les années 80, on m'aurait dit « va plonger avec un cachalot ». J'aurais dit « mais ce n'est pas possible, parce que les cachalots, ils fuient les bateaux, les derniers rescapés sont si rares et si difficiles à approcher que ce n'est pas possible ». Aujourd'hui, ce sont les cachalots qui viennent à ma rencontre. Ce sont les cachalots qui viennent m'apprivoiser, m'étudier. C'est-à-dire qu'en 40 ans, d'arrêt de la chasse, d'arrêt des agressions, non seulement le peuple des cachalots est aujourd'hui tiré d'affaire, mais nous pouvons nouer une relation apaisante, et même si on ne se comprend pas, qui fait du bien aux deux. Parce que le cachalot, lui, qui est venu me voir, s'il est resté 10 minutes, c'est qu'il était bien. Et vous vous doutez comment moi j'étais.
Et c'était où cette rencontre?
Alors cette rencontre, c'était au large de l'île Maurice. C'était un jeune mâle, magnifique, qui est venu à ma rencontre. Avec mon ami René Euzé, on était dans le bleu complet, on avait raté un peu la plongée, on n'avait pas vu ce qu'on voulait voir, et tout d'un coup on entend. On se retourne, il n'y avait rien, mais c'était un cachalot, et lui, avec son sonar, nous avait vu et perçu, et il est venu, et il est resté 10 minutes. 10 minutes à s'approcher, à s'offrir, et a essayé de m'apprivoiser en utilisant les expressions sonores de son langage propre. Et ce sont celles-ci. Ce qu'on appelle une coda à 8 clics. Et elles sont associées à une demande de contact physique. C'est lui qui m'étudiait. C'est lui qui était le maître du jeu. C'est lui qui voulait m'apprivoiser. C'est à ça qu'on peut rêver. Parce que c'est ça qu'on peut offrir à nos enfants si tout d'un coup nous avons de la considération pour tous ces autres colocataires.
Alors on va venir, puisque vous avez une association, vous avez des actions en cours, on va venir aux méthodes ou aux solutions peut-être pour s'engager. Mais vous, vous racontez cette rencontre avec le cachalot. Moi j'ai un souvenir, on vous avait reçu d'ailleurs dans C'est pas du vent, qui m'a énormément marqué, où vous avez nagé dans le film Océan de Jacques Perrin avec un grand requin blanc, ce qui terrorise une grande partie de l'humanité malheureusement. Enfin, vous êtes l'homme des rencontres. Profonde, j'ai envie de dire, parce que vous avez, vous dites tout le monde peut le faire, mais enfin bon, c'est pas si simple que ça. Vous avez la chance d'être allé sous cette couverture de l'océan qui, pour beaucoup de gens, est totalement opaque.
Prêtez attention. Avec ma petite fille, que j'ai la chance d'avoir un petit peu en ce moment, nous prêtons attention aux papillons, aux oiseaux, aux fleurs, aux gouttes d'eau de rosée sur les feuilles et la lumière qui joue dans ces gouttes d'eau. Et elle est riche de tout ça. Et c'est juste ça, c'est juste ces rencontres avec ceux à qui on prête attention. Si vous vous promenez comme ça et que vous ne prêtez pas attention, vous traversez un désert, rien n'existe. Mais à partir du moment où tout d'un coup, vous vous arrêtez et vous dites « bonjour ». En deux mots, quand je dis « bonjour », ça veut dire « je prête attention à toi ». Ah oui, à ce papillon. Et avec ma petite fille, nous suivons ces papillons. Ils existent pour elle. Ma petite fille est riche de tous ces papillons, de toutes ces libellules différentes, de tous ces insectes, de toutes ces fleurs. Elle n'a pas vu de grand requin blanc. Elle n'a pas vu de cachalot. Mais elle est riche de cette nature et de ces liens qui se créent avec elle. Elle est imprégnée de cette nature. On n'est pas allé loin, on est allé dans le jardin d'à côté. Donc c'est là que ça s'apprend. Bienveillance, respect, considération. Et tout d'un coup, on est riche de toutes les relations qu'on établit avec ceux qui sont là à côté. Après ça, on peut aller voir plus loin, aller explorer le monde qui est sous la surface. Et on découvrira alors toute la richesse qui est de nager épaule contre nageoire avec un grand requin blanc de 6 mètres. Et on verra toute la paix, la sérénité, le bonheur que ce côtoiement pacifique, harmonieux suscite.
Alors que le mot requin souvent suscite la peur, à ça je sais que ça vous énerve.
Bah oui, en général, tous ceux qu'on n'est pas allé rencontrer font peur. Et il suffit qu'on aille les rencontrer pour que tout d'un coup on découvre toute la richesse, soit de leur comportement, soit de leur culture. Ce qui est valable pour les requins, c'est valable pour nos amis qui ont des religions différentes, qui ont des traditions différentes, dont on a peur quand on ne va pas les rencontrer. Et lorsque tout d'un coup on va les écouter, qu'on tend la main, et on se dit « formidable, merveilleux, merci, je suis plus riche de ce que vous m'avez offert ». Et c'est pareil.
Alors avec votre association Longitude 180, vous lancez un programme justement pour inciter les gens à l'action. Ça s'appelle « Ici commence l'océan ». Alors justement, voilà. Ça commence par quoi ?
Par tout de suite, maintenant, chez soi. Vous m'écoutez, la prochaine fois que vous allez dans votre salle de bain, vous changez vos produits de shampoing, savon, vous prenez du savon noir, il y a des tas de recettes, vous allez trouver sur internet ou dans un livre qui s'appelle Sauvons l'océan, que nous avons écrit avec mon épouse Véronique, tout un tas de recettes faciles pour ne plus contribuer à l'empoisonnement de l'océan. Pareil pour votre lessive, pareil pour vos courses. Vous êtes des consommateurs et votre puissance est considérable. La non-consommation ou les choix de consommation sont le vrai moteur qui va faire changer les choses. Et alors, évidemment, il y a des tas d'évidences, mais il faut les mettre en pratique. Maintenant, tout de suite, vous qui m'écoutez, c'est tout de suite. Hein. En sortant de ça, vous allez prendre une décision. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, aujourd'hui, je renonce au sac plastique. Et j'y renonce pour toujours.
Ça, c'est un premier geste.
C'est un premier geste. Et puis vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez oublier que vous avez fait ce gros effort. Et vous allez pouvoir vous engager dans un deuxième pas.
Les recettes, les modes d'action, on les trouve sur le site de Longitude 180 ?
Oui, vous les trouvez sur le site de Longitude 180, vous les trouvez sur l'ouvrage que nous avons écrit, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, il y a des tas de choses que l'on peut mettre en pratique. C'est très simple, mais il y en a beaucoup. Chacun doit trouver sa solution. Mais encore une fois, c'est tout de suite et déjà un. C'est comme ça qu'il faut commencer. Je vous raconte juste une anecdote. Quand j'étais en Roumanie, juste après la chute de Ceaușescu, un dictateur qui avait construit un palais monumental, on m'a raconté cette histoire. Face au palais, le dictateur avait tracé une avenue colossale qui, de l'autre côté de la ville, passait sur une petite église qui était particulièrement sacrée. L'architecte lui fait la remarque et lui dit « Si votre tracé passe comme ça, on détruit l'église. » Il a dit « J'ai tracé, c'est fini. » L'architecte a bougé d'une fraction infime de degré la route à la base. Et comme ça, ça ne s'est pas vu. Mais loin, devant, alors la route était suffisamment distante de l'église pour l'épargner. Ce que je fais ici est peut-être dérisoire et minuscule, mais demain, dans 40 ans, peut-être que ça offrira de la vie qui aurait été détruite sinon.
Merci François Sarano.
Merci, merci beaucoup.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, Le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Le festival Agir pour le vivant, qui s'est déroulé à Arles la semaine dernière, a aussi donné la parole aux artistes à travers des expositions et des conférences. Laetitia Doche est actrice et auteure. Elle a écrit une pièce de théâtre avec un cheval intitulée Eight et produit une série d'émissions Radio Arbre où les arbres prennent la parole. Une façon de changer notre regard, de nous permettre de percevoir le monde du point de vue des éléments naturels qui nous entourent.
Je suis venue me nourrir de propos, de rencontres, d'êtres humains qui vont avoir un regard différent sur les sujets auxquels je m'intéresse, un regard peut-être plus calé, et aussi un regard, je trouve, sur la liberté finalement.
Ça plaît, puisqu'on entend les applaudissements dans la salle où ont lieu les conférences juste à côté, ça plaît cette liberté. Alors vous avez quand même votre liberté, qui est cette liberté de vous exprimer à travers l'art. Vous avez différents projets et votre objectif, ou en tout cas l'un des objectifs, c'est de faire émerger un peu le trouble que l'on traverse actuellement.
En fait, depuis un an, je lisais beaucoup de livres, notamment Cyril Dion, Pablo Servigne. Ils disent tous, les artistes, on a besoin de vous pour créer des nouveaux récits. Et c'est vrai que ce rôle, je le prenais vraiment à cœur, tellement que ça m'a complètement paralysée. Parce que je me disais, alors nous, les artistes, on doit inventer un récit, trouver quelque chose, une solution, et proposer un imaginaire où la fin serait heureuse. Et je crois que petit à petit, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit « Ok, la fin n'a pas d'importance tellement. Ce qui va compter, c'est plutôt le regard sur le présent. C'est changer notre conception du monde qui nous entoure et aussi développer l'imagination des gens. L'art, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut imaginer des choses. Donc travailler cette capacité d'imagination, je trouve qu'il est de plus en plus restreinte chez les humains. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est un endroit, l'art, où on peut parler de la complexité, du trouble, de quelque chose qui n'est pas défini. Et au lieu de chercher à apporter des réponses, poser des questions, poser des problèmes, des endroits qui sont complexes, compliqués, où il y a du noir et du blanc en même temps. Et ça, ce sont des endroits où on a besoin de les préserver pour pouvoir penser.
Alors ça passe par quoi concrètement ?
Moi, je viens du travail de comédienne. Donc le travail de comédienne, c'est quoi ? C'est essayer de se placer... de prendre le point de vue de quelqu'un d'autre, de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Et finalement, le fait de rentrer dans la peau de personnage humain, ça s'est ouvert à essayer de rentrer dans la peau d'abord d'un cheval, en l'observant beaucoup, et aussi parce que je le doublais dans la pièce. Et petit à petit, ça s'est ouvert en disant rentrer dans la peau d'un arbre. Alors j'ai aussi fait une radio qui s'appelle Radio Arbre, où je joue un arbre, donc ça se passe toujours dans un jardin, et on fait une émission d'arbres pour les arbres, et donc les gens appellent aussi en arbre, et donc je vais passer par en fait, le travail de comédienne, je vais aussi aider des auditeurs qui ne sont pas du tout acteurs, mais en essayant de leur faire part de mes techniques d'actrice, donc c'est d'être face à l'arbre qui nous appelle, de qu'est-ce qu'il ressent, quelle taille il a, qu'est-ce qu'il voit à leur avis, qu'ils essayent de changer de point de vue par mon métier en fait.
Ils ont vécu l'enfer balnéaire.
Comment ça, t'as perdu la raison ?
Si vous pensiez passer des vacances pourries, pour eux, c'était la loose.
Cher Figuier, 200 ans, avez-vous connu des vacances complètement foireuses, un week-end de mouise absolue ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, des vacances pour un arbre ?
Alors, désolé, juste moi, c'était en hiver. Hein, c'était mes vacances, c'était fin jour. Pendant les vacances d'hiver, j'étais ici, alors protégé par un manteau de neige. Et j'avais prévu, comme d'habitude, de faire une bonne sieste hivernale et reprendre des forces pour le printemps.
L'idée, c'est ça, c'est de permettre aux gens de regarder le monde qui les entoure autrement, les éléments naturels qui les entourent autrement.
Oui, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à se dire, ces végétaux, ils ont aussi une façon de voir que je ne connais pas et c'est qu'ils commencent à s'y intéresser. Que ce soit vrai ou non ce qu'ils disent, finalement, pour le départ, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils se posent des questions et qu'ils essayent de s'intéresser, en fait. C'est l'intérêt qui va après se développer sûrement avec des livres, avec d'autres choses. Mais c'est que tout d'un coup, il y a une place où on essaie d'aborder un autre point de vue. Parce qu'aussi, quand on est actrice, on ne sait pas. On joue un personnage, on ne sait pas si comment on va interpréter, c'est juste ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se déplace, en fait.
Les références de nos invités sur la page internet de l'émission sur le site www.rfi.fr. Merci à Samira Chabri pour son aide logistique et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.